Vous connaissez la charité pour ses remparts, son prieuré, ses petits cafés, la Loire sauvage, mais est-ce que vous savez que de nombreux artistes y sont venus à toutes les époques et en ont parlé dans leurs œuvres ?
Les élèves de 4e 4 du collège Omenie Michaud ont enquêté pour vous et vous invitent à découvrir leur série de podcasts originaux, La charité dans le regard des artistes.
En octobre 2023, notre professeur de français, Lise Uva, nous a parlé d'un projet de création de podcast sur des personnages célèbres à leur époque et qui sont passés à la charité sur Loire. On avait du mal à imaginer ce qu'on allait faire. On a commencé par écouter une sélection de podcasts pour nous donner une idée, puis on a fait un travail d'enquête sur Bussy Raputin, Victor Hugo, Mérimée, Stendhal, Auguste Grasset, Senghor, Gilson, Sandor. Puis, on a choisi les artistes dont on avait envie de parler. Le travail de groupe a commencé. On a rencontré l'équipe de la Cité du Mot et Fanny Lancelin, journaliste et animatrice média, qui nous a expliqué les étapes de réalisation d'un podcast.
Elle nous a demandé de choisir un angle à partir duquel on a écrit les histoires du passage des personnages à la charité sous forme de fiction. C'était stylé un cours de français de cette manière-là. Notre professeur d'histoire, M. Bolto, nous a aidé à comprendre la période de la Fronde et Thierry Jacob, animateur du patrimoine à la Cité du Mot, nous a montré et commenté la gravure panoramique de la charité composée par Israël Sylvestre. Elle est conservée dans les réserves du musée. Puis, on a retravaillé nos textes et réfléchi au contenu de chaque podcast. Par exemple, on a décidé de rapper sur les poèmes de Paul Gisson, et puis la semaine de résidence est arrivée.
Du 22 au 26 janvier 2024, on a travaillé de manière acharnée à la création. Le lundi et mardi, répétition avec Camille Lamache, comédienne voix qui nous a aidé à rentrer dans la peau de notre personnage avant l'enregistrement de nos fictions avec l'équipe de Bac FM. Pendant qu'un groupe travaillait sa diction, les autres écrivaient les conducteurs des podcasts avec Fanny Lancelin.
En fin de semaine, on a appris à faire du dérochage et du montage. Graham Bertrand nous a aidé à manipuler le logiciel Reaper. André Fèvre nous a guidé de la recherche de bruitage qui donnait vie à nos histoires. Il a une banque de bruits incroyable qu'il utilise au cinéma. Ensuite, il a mixé les extraits tandis que Thibaut Faucard s'est occupé de l'habillage sonore. Thibaut nous a expliqué les instruments qu'il utilisait et on en a choisi avec lui. On a réfléchi ensemble aux ambiances qu'on voulait pour nos podcasts et après nos discussions, il a créé les sons à mettre en fond de récit. Avec Lucie Richard et Madame Sacquin, notre professeur d'art, on a créé l'identité visuelle de nos podcasts. On a réalisé des logos et des affiches avec Canva. C'était super. Émilie Richez a coordonné tout le projet et nous a guidés pendant toute la période. C'était une expérience inoubliable. On a appris beaucoup de choses sur les artistes, le patrimoine, la technique, mais c'était différent des cours habituels. C'était incroyable. On est tous impatients d'écouter le résultat.
Les conquêtes de Bussy Raputin pendant la Fronde, une fiction basée sur des faits historiques réalisés par des élèves de 4e de la Charité sur Loire. Il était beau, grand, brillant. C'était un grand séducteur. Il aimait beaucoup les femmes, même sa cousine Madame de Sévigné. Le personnage dont nous allons vous parler aujourd'hui s'appelle Roger de Bussy Raputin. L'une de ses nombreuses conquêtes, la très charmante Lucie, va nous raconter son passage à la Charité en 1652 pendant la Fronde.
J'avais rencontré Bussy un soir de bal chez le duc de Sancerre. À cette époque, il venait d'acheter la charge de lieutenant général en Nivernais. Il était charmant, beau, grand, élégant et tellement drôle.
Après avoir été un proche de Condé, Bussy s'était rallié aux troupes du roi menées par Turenne. Le 10 février 1652, le comte de Paluol lui a demandé de repousser les troupes de Langeron et d'assiéger la charité sur l'Or. C'était la Fronde.
Alors je suis M. Bolto, je suis professeur d'histoire-géographie et enseignement moral et civique. Je vais vous parler de la Fronde. C'est une période de rébellion qui commence en 1648 et qui termine en 1653. C'est une période de régence, c'est-à-dire que le roi est encore trop jeune, c'est Louis XIV. Et donc c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui va prendre, je dirais, les rênes du royaume. Elle sera aidée par Mazarin. Et dans cette Fronde, les historiens ont coutume de la diviser en trois parties. La première partie, ça sera la Fronde des parlementaires. Ensuite, vous aurez la Fronde des princes. Et ensuite, la Fronde d'un prince parmi les princes, qui sera Condé. Je résume un peu la fronde parlementaire. Les parlementaires s'opposent au recours qui est trop fréquent, qu'on appelle des lits de justice. Les lits de justice, c'est quand le roi se présente au Parlement et par sa présence oblige forcément l'enregistrement des différents édits. On est aussi dans une période où vous avez des guerres, la guerre de 30 ans qui vient de se terminer en 1648 et la guerre entre la France et l'Espagne, et donc on a besoin d'impôts. Et les parlementaires vont s'opposer aussi, je dirais, à l'enregistrement de nouveaux impôts. Et donc ils vont s'opposer, et de l'autre côté, vous allez avoir un camp qui va se mettre en place, le camp du roi, qui est accompagné des princes. Mazarin décide de faire arrêter les principaux meneurs du Parlement. La conséquence, c'est que vous avez des journées révolutionnaires qui ont lieu à Paris. Condé, c'est lui qui va être le principal artisan du siège de Paris. Et il veut être récompensé de ce qu'il a effectué. De l'argent, il en a. Des territoires, il en a. Il veut autre chose, il veut l'épée de Connétable, c'est-à-dire le chef, en fait, des armées. Mais le roi n'est pas forcément disposé à lui donner, et puis Mazarin est plutôt hostile aussi. Et donc il va amener avec lui d'autres princes dans une fronde, une deuxième partie, c'est la fronde des princes. Bussy-Rabutin a combattu avec Condé, notamment en Espagne, et il a aussi de l'autre côté une charge, c'est-à-dire il est lieutenant du roi en Nivernais. Et donc on peut dire qu'il se retrouve un peu partagé entre deux opinions, mais voyant en fait Condé, prendre les armes contre le roi, en fait, là, il redevient, en faveur du roi. Principalement, le rôle de Bussy-Rabutin a été de faire le siège, tout simplement, de la charité. L'importance de la charité, on peut l'expliquer par la présence du pont. Et la charité a un autre avantage, c'est qu'il y a aussi des campagnes autour, et donc il y a possibilité de récupérer du blé pour nourrir les troupes en vue, de réaliser le siège.
Pendant plusieurs jours, tous les soirs, mon cher Bussy est venu à ma porte, dans le dos de Langeron et de ses hommes, sous prétexte de goûter au petit plat de ma cuisinière.
Malgré sa grande réputation de coureur du jupon, j'aimais énormément me laisser séduire par mon amant. Rendez-vous après rendez-vous, je suis devenue sa confidente. Il m'expliquait ses plans et tactiques pour repousser les frondeurs et rétablir le pouvoir du roi.
Les charitois, et plus particulièrement les échevins, étaient favorables au prince de Condé. Ils détestaient le cardinal Mazarin qui primait leur pouvoir, en avait assez de subir des prélèvements d'impôts toujours plus importants pour financer des guerres lointaines. Cependant, sous la pression exercée par Bussy, et lorsqu'ils ont appris que les troupes du roi se rapprochaient, ils ont choisi de se soumettre et d'obéir. Ils ont donc repoussé les troupes de Langeron, et Bussy les a contraints à détruire deux arches du pont de Loire qui reliaient la Nièvre et le Berry, afin d'empêcher les troupes de Condé d'atteindre le Nivernais. On a appris plus tard que Condé et ses troupes étaient arrivés jusqu'au bec d'Allier et qu'il l'avait échappé belle. Après les premières victoires de Bussy sur les charitois, Paul Huot lui a demandé de réquisitionner nourriture et logement pour les soldats. Les échevins, en colère, ont refusé catégoriquement de se soumettre à nouveau.
J'avoue que nous avions tous un peu peur de loger des inconnus qui venaient perturber la vie de notre cité et qu'on en avait tous marre de donner de l'argent. Bussy est arrivé un soir fou de rage parce qu'on lui refusait ce qu'il réclamait. J'ai eu beau argumenter, il se fichait bien de ce que je pensais et ne m'écoutait pas. Ils avaient caché les provisions et posté des hommes armés aux portes de la ville. Quand Bussy est monté à cheval avec quelques soldats pour s'expliquer avec les échevins, il est tombé sur des hommes à moitié ivres. Il braillait qu'il préférait mourir plutôt qu'obéir. La cité était vide, silencieuse, comme abandonnée. Bussy, remonté comme une pendule, a décidé de faire le siège de la charité, soutenu par les troupes du roi.
Alors, je m'appelle Thierry Jacob. Je suis responsable des collections du musée de la charité sur Loire et je suis aussi animateur du patrimoine. Un musée a pour vocation de garder des objets, c'est-à-dire de conserver la mémoire, notre mémoire, la mémoire de la ville, la mémoire de la région. Au musée, on en a plein d'autres, des gravures, des dessins du XVIe siècle, XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Ça permet de voir comment était la ville de la Charité, ou plus précisément de voir comment les artistes l'ont représentée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Souvent, on ne représente qu'un quartier ou qu'une façon de voir, où l'artiste, lui, va choisir le point de vue qui l'intéresse. Mais de garder toutes ces œuvres du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, ça permet de retracer l'histoire de la ville. Alors, l'auteur de cette gravure, il s'appelle Israël Sylvestre. Il est né en 1621 à Nancy. Il a vécu 70 ans, ce qui est beaucoup pour l'époque. Il était à la fois dessinateur et graveur, et on dirait aujourd'hui c'est une star. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a produit une œuvre très importante, et surtout il a produit auprès du roi, auprès de la cour. Les gens puissants lui passaient commande de dessins, de gravures, et il a fait beaucoup de représentations de châteaux, de batailles, de fêtes, de jardins, et il a fait des gravures de villes du royaume, dont celle de la Charité. Alors la date est un peu incertaine, vers 1640, 1650, on ne sait pas exactement. Donc c'est un dessinateur et aussi un graveur, c'est-à-dire que les dessins, il les posait sur une plaque de cuivre, il les gravait, ce qui permet d'ailleurs de les conserver beaucoup mieux et surtout ce qui permet de les reproduire. Alors l'œuvre, en quelques mots, elle représente la Charité, vue de la Loire, dans le sens de courant. On voit très bien les deux ponts, on voit l'île du Faubourg, on voit plein de bateaux sur lesquels circulent des personnes comme des marchandises. On voit que la ville, c'est une ville qui est construite au bord de la Loire. Elle est un peu coincée par ses collines et aussi elle est bien coincée à travers ses murailles. Difficile d'identifier des bâtiments très précis, sauf généralement ceux des églises, les bâtiments les plus hauts. L'église du prieuré, l'église Saint-Jacques, qui aujourd'hui a disparu. Alors, c'est un dessin très fin, très précis, très minutieux, mais finalement, ça représente la façon dont on faisait le portrait des villes à l'époque, toujours au bord d'un fleuve, vue du fleuve, avec le pont au milieu, les remparts et les églises. Après le reste, identifier d'autres bâtiments, difficile.
Des heures pénibles ont commencé, on était tous terrifiés, même si mon amant se voulait rassurant. On craignait tous la faim, car on voyait nos réserves diminuer à vue d'œil. L'eau manquait, les gens ne pouvaient ni rentrer ni sortir. Heureusement, le siège n'a pas duré longtemps, car le plan de Bussy a parfaitement marché. Les échevins se sont rendus au bout de quelques jours.
Même si Bussy était très satisfait de son succès, et était à nouveau doux comme un agneau quand il me rejoignait, pour se venger et montrer à tout le monde son pouvoir et son autorité, il a demandé aux échevins de lui livrer les 6 hommes les plus mutins. Il menaçait de les pendre sur la place des pêcheurs pour l'exemple. J'étais effarée. Pouvait-il être aussi cruel ? Finalement, il a renoncé et lâché les pauvres types. Quel soulagement !
C'est la seule concession qu'il a faite à la charité, car dans les jours qui ont suivi, il a réclamé une contribution de guerre et a confisqué 10 000 gerbes de blé. Il a exigé aussi que ses soldats logent gratuitement dans les maisons. Sale moment, c'était en mars. Il ne restait pas grand-chose après l'hiver et après le passage de son régiment. La cité était totalement dépouillée.
Franchement, j'ai été écœurée.
Avant de quitter la charité, il a fait désarmer les bourgeois. La ville était considérablement affaiblie.
Il est revenu me rendre visite quelquefois, mais je dois dire que le charme était rompu. Les hommes, la guerre, le pouvoir... L'orgueil, tout cela me dégoûtait. Bien vite, il a quitté la Nièvre pour poursuivre la guerre, et je ne l'ai plus revu. Je n'avais été qu'une petite aventure de plus dans la vie longue et mouvementée de Bussy. Plus tard, j'ai su qu'il avait été exilé sur ces terres de Bussy le Grand. Mais ça, c'est une autre histoire.
C'était Les conquêtes de Bussy Rabutin pendant la Fronde, un podcast réalisé par
Axel, Hugo, Julia, Lucas, Manon, Nathan et Nolan.
Merci à toute l'équipe de la Cité du Mot.
Émilie, Graham, Lucie, André, Camille, Fanny, Thibault et notre professeur de français, Lise Dubois.
Merci à la Radio Bac FM et à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez aussi découvrir les podcasts de nos camarades sur d'autres personnages célèbres comme Paul Gilson, John King et Auguste Grasset. À bientôt.